C'est bon? Allez, on est équipé. Vous allez m'entendre, c'est certain? Bon, bonjour, frères et sœurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour pouvoir apporter la parole. C'est ma deuxième fois là, que je viens prêcher ici. La dernière fois, ça fait quoi, 2-3 ans, je crois. Et maintenant, je suis avec vous. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce privilège d'apporter la parole. C'est toujours un petit peu... on est toujours un petit peu anxieux. La parole, c'est important. Puis ça me permet justement de verser, d'entendre, d'écouter ce que le Seigneur m'a porté sous mon cœur, de vouloir venir vous partager cet après-midi. Le texte que j'ai pris aujourd'hui, c'est un défi, parce que on va parler de Marie. C'est pas toujours qu'on va prêcher ce texte, mais pour moi, j'aime se relever des défis. Je pense que toute la parole doit être prêchée. Alors, pour moi, c'est une façon aussi d'étudier profondément, de voir vraiment ce que le Seigneur veut nous apprendre. Alors, le texte que j'ai pris, c'est le Luc 1, 39 à 56. Et le titre du message, c'est « Deux femmes expriment leur joie à la venue du Messie ». C'était extraordinaire, puis j'aimerais justement vous le partager. Comme introduction, pour vraiment comprendre tout le texte, je vous en fais un résumé. Alors, c'est bien certain que nous sommes à la veille de Noël. Alors, c'est certain que c'est un message qui était sensible pour pouvoir le partager. C'est la célébration de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ qui a été fait ou qui a eu lieu il y a 2000 ans à Bethléem. Alors, nous allons fixer notre regard sur deux futures mamans, Marie et sa cousine Élisabeth, qui vivent chacune un enfantement et se préparent à une naissance. Cet épisode de la rencontre de Marie et Élisabeth que raconte Luc est un des plus beaux textes de tout son évangile de Luc. Alors, brièvement, pour vous faire un résumé, donc dans l'évangile de Luc, chapitre 1, 5 à 25, des anges annoncent la naissance de Jean-Baptiste, qui est dit le prophète du Très-Haut, versets 5 à 25. Alors, verset 5 dit, « Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu. Un ange apparut et dit, au verset 13, « Zacharie, car ta prière est exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Verset 14, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. » Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Verset 22. Quand Zacharie sortit du temple, de l'autel du temple, il ne put parler, il était muet. Et il comprit qu'ils avaient eu une vision dans le temple. Alors, il leur faisait des signes et il resta muet. Verset 23. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, se cacha pendant cinq mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, 26 à 38, des anges annoncent la naissance de Jésus, le Fils du Très-Haut, versets 26 à 38. Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Après, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Un point important dans le récit, de l'Annonciation, il faut reconnaître que Marie reçoit une grâce et non qu'elle est une source de grâce. Très important. Malheureusement, il y en a qui en ont fait une scène, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Alors l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Luc 1, 31 à 33, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alors voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange le quitta. Alors, ces deux futures mamans vont vivre une expérience de rencontre qui les dépasse. Donc, avant de prendre notre texte, je vais prier. Alors, merci Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta grâce infinie, ta miséricorde, ton amour envers nous comme pécheurs. Nous voulons, Seigneur, à l'approche de Noël, se rappeler que ton Fils est venu sur la terre comme un simple homme pour venir nous sauver. Il s'est donné pour nous comme un serviteur. Remplis nos cœurs, Seigneur, d'ardeur pour toi, et que l'on soit reconnaissant pour toute chose. Nous voulons faire l'expérience de ton amour qui jaillit en nous et dans tous ceux que nous rencontrons chaque jour. Dispose nos cœurs, Seigneur, cet après-midi, et bénis la parole qui sera exposée. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Alors, on va lire le texte. Luc 1, 39 à 56. Alors, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alors, dans le récit de l'annonce de la naissance de Jésus, Marie apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte elle aussi. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi, qu'on dit dans le texte, un fils dans sa vieillesse. Et elle est dans son sixième mois. Alors, Marie n'écoute que son premier mouvement intérieur et part tranquillement. C'est pas ça que je dis. En hâte. Elle se dépêche. Elle a quelque chose à lui partager pour aller la voir. Le voyage de Nazareth vers la Judée a été long pour elle. On n'est pas certain vers quelle direction elle a pris, mais c'était environ 160 km. Il n'y avait pas d'autobus dans ce temps-là. Pas sur électrique non plus. Donc, elle est partie en courant, s'il faut. On s'en va la voir. Elle a quelque chose. Elle a appris une révélation que sa cousine est enceinte. Marie porte un secret en elle. Elle est porteuse de Dieu, la révélation de l'ange. Elle veut aller servir. Sa cousine est enceinte de 6 mois. Qu'est-ce que je peux faire? Le fait d'aller la voir, possiblement, ça va venir confirmer cette révélation. On va pouvoir voir que cette femme âgée est enceinte. Et la révélation que Marie aussi, elle a eue, qu'elle porte aussi le Messie en elle. Et elle se hâte pour servir aussi. Elle ne perd pas de temps pour aller à l'aide. À cette annonce, Marie a bien voulu donner suite. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle ne se prend pas pour n'importe qui, une servante, la bassesse. Alors, elle vient de recevoir une nouvelle extraordinaire qu'elle sera aussi enceinte. Alors, comment vérifier? Alors, c'est d'aller voir sa cousine. Allons partager ensemble, et afin qu'on puisse se réjouir et confirmer cette bonne nouvelle. Est-ce que vous avez déjà eu, dans votre vie, j'imagine que oui, une annonce extraordinaire? Comment ça a été votre réaction? Peut-être la naissance espérée ou voulue aussi d'une naissance? Peut-être d'un mariage? Une proposition? Enfin, mon époux, mon futur, ma conjointe, ou peut-être un travail, un nouveau poste, ou peut-être une augmentation de salaire, on a besoin. Quel extraordinaire, des belles nouvelles, on se réjouit, on a hâte de le partager. On prend notre téléphone, on appelle rapidement tous nos amis, on fait le tour. Ou peut-être au niveau de la santé. On a eu de belles nouvelles, on a eu une guérison, on n'a plus de cancer, des traitements ont réussi. C'est pas extraordinaire. On se réjouit devant de telles réactions. C'est normal, c'est humain. Mais davantage pour eux, pour ces deux femmes qui reçoivent une révélation. Un ange vient révéler qu'ils portent, en fin de compte, deux naissances importantes qui vont avoir un impact pour le restant de la vie. On veut la partager. Alors, Marie, on voit l'action du Saint-Esprit. Il la pousse rapidement. Le Saint-Esprit la pousse rapidement, en hâte, pas tranquillement, à la hâte de partager. Verset 39, « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. » Alors, cette joie est confirmée par Élisabeth. Deux femmes se saluent sur le seuil de la Nouvelle Alliance. Élisabeth est vieillissante et Marie est encore jeune. On est sur le seuil. Il va y avoir un changement dans les années, dans ce temps-là qui venait. Ils ont en commun une espérance dans leur maternité qui va se réaliser. Mais surtout le fait que leur maternité les engage tout entière dans le plan de Dieu et que leurs deux enfants sont des enfants de l'impossible. Élisabeth était stérile, était vieille. Et Marie, qui était vierge, n'a jamais connu d'homme, et enceinte aussi. Tous deux témoignent dans leur chair que rien n'est impossible à Dieu. Mais quelle différence entre les deux bébés qu'elle porte. Marie, qui salue la première, est la servante porteuse qu'on appelle le Fils du Très-Haut. Mais dès que le son de sa voix parvient à Élisabeth, celle-ci sent son enfant tressaillir dans son sein. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire lorsqu'on voit, lorsque le bébé, au bout de 6 mois, commence à bouger. Mais l'Esprit Saint, qui fait irruption en elle, lui dévoile la portée symbolique de ce mouvement de l'enfant au moment même de l'arrivée de Marie. Pas n'importe quand, à cet instant même. Souvent, on peut penser comme ça, « Oh, ça devait arriver » ou « telle chose ». Non, des fois, on se demande, il faut être alerte, il faut être ouvert. Le Saint-Esprit nous révèle des choses par la parole. Il faut être à l'écoute, il faut être vraiment sensible. Verset 41, « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Et elle ajoute ensuite, au verset 44, « Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Le tressaillement de l'enfant, la définition que j'ai cherché, c'est un ensemble de secousses musculaires qui agit brusquement le corps sous l'effet d'une émotion vive ou d'une sensation inattendue. Possiblement, vous avez déjà vécu ça. Hein? Comment qu'on réagit? On vient tout à l'envers. On est bousculé dans notre corps. Et on peut comprendre cette joie, cette exaltation pour ces deux femmes. Ces deux femmes comprenaient très bien les Écritures aussi. Elles avaient lu. Et pour comprendre le ministère de Jésus, Malachie n'est pas considéré par le Nouveau Testament comme le dernier prophète à avoir parlé avant la venue du Messie. Non, Jésus lui-même déclare que l'ultime prophète n'est autre que Jean-Baptiste. Matthieu 11, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » La prophétie forme ainsi pour lui la ligne de continuité la plus importante entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il annonce la venue du Christ et prépare les voies du Seigneur. C'est lui, Jean-Baptiste, qui le premier reconnaît comme tel son cousin, Jésus de Nazareth, et le baptise dans le Jourdain. Élisabeth, dans un grand cri, annonce que l'Esprit vient de lui révéler, et son cri est une double bénédiction. « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Elle a compris en un éclair le temps d'un cri, et tout de suite, elle se situe à sa vraie place. Elle, l'ancienne ou la plus vieille, on peut le considérer, devant la jeune mère du Messie. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Verset 43. Ainsi, le face-à-face entre deux mères ne fait que transcrire la rencontre invisible des deux enfants. Tout s'accomplira selon la promesse. Le Christ est venu, il vit, il reviendra. Il est venu dans l'humilité. Il vient dans l'intimité et reviendra glorieux. Amen. Cette espérance qu'on peut avoir, on sait que c'est élevé, on attend son retour. À nous maintenant de savoir nous étonner ce que Dieu fait. À nous de redire avec la surprise d'Élisabeth, d'où me vient ce bonheur que vient jusqu'à moi la mère de mon Seigneur? Heureuse celle qui a cru. Au verset 45, « Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Cette joie est exprimée par Marie, qu'on appelle le Magnificat. Vous avez sûrement entendu parler, ça vient d'un titre couramment donné dans le Cantique de louange de Marie, vient dans la version latine de la Bible, dans la Vulgate, proprement dit, qui veut dire « Magnificat anima mea dominum ». J'ai fait un petit peu de latin, mais il fallait aller. Qui veut dire « Elle célèbre mon âme, le Seigneur ». Cette louange est la confirmation par Élisabeth du message de l'ange Gabriel, à savoir qu'elle a été choisie pour mettre au monde le Fils de Dieu. Ce cantique est très proche de la prière d'Anne en Samuel 2, 1, 10. Tous les manuscrits grecs attribuent ce texte à la mère de Jésus. Seuls trois manuscrits en latin mentionnent Élisabeth pour ce texte au lieu de Marie. Peut-être c'est là la confusion, mais selon les experts, je dirais, ils ont décidé que c'est le texte de Marie. Alors, ce poème est le point culminant de toute la section, mais en plus, le cantique lui-même est bâti sur le mode crescendo, en montant. Pour les musiciens, je pense qu'on utilise beaucoup ce thème-là, donc tranquillement, on voit le texte. Il est composé de 4 strophes décrivant. Une mouche qui se promène. Premièrement, l'exaltation joyeuse de Marie, sa gratitude et sa louange à cause de la bénédiction dont elle est l'objet. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ensuite, on peut voir le caractère de Dieu et sa grâce à l'égard de tous ceux qui le révèrent. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuse. Avez-vous écouté? Je ne sais pas. Avez-vous s'approché? Troisièmement, sa souveraineté, son souci particulier des humbles. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Et la quatrième strophe, sa bonté à l'égard d'Israël. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Alors ce poème, ou cet hymne, si on peut dire, est une description de la délivrance messianique de Dieu. Et on peut en faire ressortir 5 points importants. Tout d'abord, la pleine connaissance de l'Écriture que cet hymne présente. On pense surtout au cantique de Anne, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 2, 1, 10, qui ressemble énormément. C'est évident que Marie connaissait ce texte. Et ainsi, grâce à l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. Elle exprimait ses sentiments dans le langage de l'Écriture qu'elle a appris, poussée par le Saint-Esprit à éclater en louange. Elle choisit un langage à elle que le Saint-Esprit avait déjà consacré et utilisé. Efforçons-nous chaque année que nous vivons de nous familiariser plus profondément avec l'Écriture. Étudions-la. Cherchons, creusons, méditons jusqu'à ce qu'elle nous habite richement. Comme ça, lorsque des événements arrivent, on peut louer plus facilement le Seigneur. On se rappelle des bénédictions, on se rappelle ce que la Bible veut nous révéler. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Travaillons en particulier aussi à nous familiariser avec les parties de la Bible, comme par exemple le livre des psaumes, qui décrivent l'expérience des saints d'autrefois. David écrit des très beaux textes qui nous touchent dans différentes situations de notre vie, dans la détresse ou dans la joie. On peut se référer, et c'est un réconfort aussi. On a de la peine, une tristesse, une joie, un encouragement. Toutes les situations de la vie, on peut les retrouver dans la Bible. On peut saisir chaque, pour peut-être pour nous, ou aussi peut-être pour d'autres, pour encourager d'autres chrétiens ou des proches. On vit toutes des périodes difficiles ou joyeuses. Que tout ce qu'on fait, qu'on dise, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Elle nous fournira le langage le meilleur et le plus approprié à la fois pour l'expression de nos désirs. La connaissance de la Bible, le temps consacré à une telle étude n'est jamais mal dépensé. Lorsque je fais des études, lorsque je fais des prédications, le temps que je mets, ça m'enrichit. Des fois peut-être plus que vous, parce que je prends le temps, je lis, je réfère, je regarde, je médite. Même chose pour vous, prenez le temps. C'est une source importante pour nous, pour nos cœurs. Deuxièmement, dans cet hymne de louange, la profonde humilité de Marie. Comme on dit, elle ne se prend pas pour un autre. Celle qui a été choisie de Dieu avec le grand honneur d'être la mère du Messie parle de sa propre basse condition et reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur. Jamais elle ne se considère comme une personne sans péché ou immaculée. Au contraire, elle utilise le langage de celui qui a été enseigné par la grâce de Dieu. Alors, imitons cette même humilité de la mère de notre Seigneur. Comme elle, soyons humbles à nos propres yeux et ne pensons pas à nous-mêmes. L'humilité est la plus haute grâce qui puisse orner le caractère chrétien. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup, qui manquent d'humilité. Chacun pour soi. Puis, on est toujours meilleur que les autres. Mais, considérons aussi le prochain. Dans Psaume 139, 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 143, 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Un autre psaume que j'ai pu sortir, c'est « Enseigne-moi tes voies, éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Le Créateur lui-même a quitté lui-même le ciel et sa gloire, et il s'est fait homme. Il a accepté une vie sainte et a porté le péché du monde. Il s'est humilié pour moi, pour vous. Comment le Dieu Tout-Puissant a-t-il pu quitter son ciel et son trône de gloire et s'abaisser de sa naissance physique dans une étable au milieu d'une famille très modeste et mourir comme un brigand alors qu'il était sans tâche et sans péché? Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Troisièmement, Marie montre une vive reconnaissance. Dans toute la première partie de son hymne, Son âme exalte le Seigneur, son esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Alors, nous pouvons à peine entrer dans le monde, dans toute l'étendue des sentiments qu'éprouvait Marie. C'est difficile de comprendre. Si on peut saisir, on peut se rapprocher peut-être de ce que vous avez déjà vécu. Nous aussi, nous devrions cultiver cet esprit de reconnaissance dans ce que le Seigneur nous apporte. David, dans l'Ancien Testament, a su aussi le démontrer. Paul aussi, plein. Nous lisons rarement beaucoup de leurs écrits sans les trouver bénissants et louant Dieu. Lorsqu'on se lève le matin, ça c'est si vous ne cognez pas une orteille, le matin sur le bord du lit, vous pouvez remercier le Seigneur que vous êtes encore en vie, ou avant de se coucher le soir pour la journée, bien qu'elle ait été difficile, mais vous avez pu, profiter de cette journée. Soyez reconnaissants de vos journées. Bénissant le Seigneur. Nous avons toujours plus de grâce des fois que nous en méritons des fois. Mais peut-être on ne l'apprécie pas autant. Ou on ne le remarque pas. Regardons autour de nous chaque semaine et voyons si nous n'avons pas grand-chose à remercier Dieu. Ce serait bien si nos prières et nos supplications étaient plus mêlées d'actions de grâce aussi. Vraiment consacré pour le Seigneur, de ce qu'il nous donne, c'est d'être reconnaissant en toutes choses. Amen. La connaissance expérimentale des anciennes relations de Dieu avec son peuple, que la Vierge Marie possédait. Elle parle de Dieu comme celui qui fait miséricorde à ceux qui le craignent, comme celui qui disperse les orgueilleux, qui abat les puissants et renvoie les riches à vide, comme celui qui exalte les humbles et remplit les affamés de bonnes choses. Verset 51. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. C'est la grande puissance de Dieu qui est aussi représentée par son doigt dans le livre, ou par sa main. Et sa puissance suprême, c'est son bras. Elle a parlé sans aucun doute en souvenir de l'histoire de l'Ancien Testament. Elle se rappela comment le Dieu d'Israël avait renversé Pharaon, ou les Cananéens, et les Philistins, ou tous les autres peuples. Dieu a toujours vaincu. Il a toujours fait ce qu'il a promis. C'était son plan. Marie se rappelait aussi comment Dieu avait exalté Joseph, Moïse, Samuel, David, Esther, Neplin, Daniel. Et il n'avait jamais permis que son peuple choisi soit complètement détruit. Il avait toujours un reste. Le vrai chrétien devrait toujours accorder une attention particulière à l'histoire de la Bible, qu'on puisse se rappeler ce que Dieu a fait. Il est toujours vivant. Il peut accomplir des belles choses. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, une telle étude éclaire la manière dont Dieu traite son peuple. Cela le rendra patient et plein d'espoir. Cinquièmement, c'est la ferme compréhension que la Vierge Marie avait des promesses bibliques. Elle termine son hymne de louange en déclarant que Dieu a secouru Israël en souvenir de sa miséricorde et qu'il a fait, comme il l'a dit à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour toujours. Ces paroles montrent clairement qu'elle se souvient de l'ancienne promesse faite à Abraham. Genèse 2:18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Il est évident qu'à l'approche de la naissance de son fils, elle considérait cette promesse comme sur le point de s'accomplir, parce que Dieu a toujours tenu ses promesses. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, Il a un plan. Il a un plan pour chacun de nous, comme on l'a dit. Les promesses sont en fait et pour nous. Nous marchons par la foi. Et cette foi s'appuie sur des promesses. Personne ne vous ravira de sa main. Il nous garde précieusement. Il nous entoure de ses bras d'amour. Dans toutes circonstances, ne vous découragez pas si vous l'êtes. Et Dieu a un plan pour chacun de vous. Nous pouvons nous appuyer avec confiance, comme la Vierge Marie, que Dieu a tenu sa parole et qu'il accomplira toujours en temps voulu. L'adoration véritable n'est donc pas quelque chose d'automatique ou que nous pouvons produire nous-mêmes. Elle est plutôt la réponse d'un cœur débordant de reconnaissance à la manifestation de la présence de Dieu. Nous entrons dans une attitude d'adoration quand nous commençons à voir Dieu tel qu'il est et répondons à sa présence. Même le ciel, les séraphins qui contemplent la gloire de Dieu proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe 6:3. Quand Jésus a marché sur l'eau, sous les yeux des disciples, et que le vent est tombé après qu'il est monté dans la barque, les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ils se prosternèrent, le rencontrer, il le bénit. C'est une confession digne d'être placée à côté de celle de Pierre, lorsqu'il disait à Jésus, « Tu es le Christ. » Il le reconnut. Souvenons-nous du sens profond des mots « le Seigneur » et gardons-nous de les utiliser avec légèreté, avec inconscience. Considérons ce qu'elles appliquent à juste titre à nul autre que lui qui a été crucifié pour nos péchés. Le Seigneur est le Seigneur, le roi des rois. Bien sûr, la nature de Dieu peut nous être révélée non seulement par la prédication de la parole, mais aussi par les paroles des cantiques, comme nous avons chanté. C'est béni. Par la musique, par la prière, par les lectures bibliques. Alors, préparons-nous aussi pour Noël. Adorons et partageons Christ autour de nous et de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Adorons-le par nos chants, nos prières et tout ce que nous avons en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Pour terminer, il y a deux textes liés à l'expression qui doit souvent nous venir à l'esprit. Dans l'un, il est écrit « Nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur que par le Saint-Esprit. » Dans l'autre, il est écrit « Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » 1 Corinthiens 12:3 et Philippe 2:11. Amen. Amen. Merci.